Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'animer l'émission Au fil des pages avec Anne Muratori-Philippe qui vient de me rejoindre dans le studio. Anne Muratori-Philippe, bonjour.
Bonjour Hélène.
Vous êtes membre correspondante de l'Académie des sciences morales et politiques, vous êtes auteur de plusieurs livres d'histoire et vous êtes ancienne journaliste au Figaro et plus spécifiquement critique au Figaro littéraire. Et vous avez choisi de présenter dans cette émission, Au fil des pages, évidemment un livre d'histoire. Alors je vous laisse la parole, Anne Muratori-Philippe.
Oui, effectivement, j'ai choisi un livre d'histoire qui a quand même un lien avec l'Académie des sciences morales et politiques, puisque son auteur, Géraud Poumarède, a reçu le prix Charles Lyon-Caen, décerné donc à l'automne par l'Académie des sciences morales, pour une enquête remarquablement fouillée, qui touche à un sujet malgré tout d'actualité, bien qu'elle soit limitée à la période des XVIe et XVIIe siècles. Il s'agit du mythe de la croisade contre les Turcs. L'ouvrage s'intitule « Mythes et réalités de la lutte contre les Turcs » au XVIe et XVIIe siècle. Il est paru dans la collection Nœuds Gordiens aux Presses universitaires de France.
Alors Géraud Poumarède, qui est cet auteur? Présentez-le-nous.
Alors l'auteur est normalien, agrégé d'histoire, ancien membre de l'École française de Rome et maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Paris-Sorbonne, Paris IV. C'est un XVIIe-miste confirmé qui a choisi de travailler sur la Méditerranée.
Très bien. Alors, que pouvez-vous nous dire pour que nous ayons envie de lire ce gros livre? Parce que moi, je le vois et il est quand même assez épais.
Oui, effectivement, c'est un pavé. C'est un pavé qui s'inspire de l'œuvre de Fernand Braudel et d'Alphonse Dupron. Et Poumarède cherche à apporter des éléments historiques. Il va apporter des éléments historiques intéressants dans le débat sur la Turquie et l'Europe, et aussi sur tous les conflits émergents en Méditerranée qui ont trouvé la plupart du temps leurs racines dans les religions. Alors de nombreux historiens, Fernand Braudel compris bien sûr, attribuent des fondements religieux aux conflits récurrents qui opposent Turcs et chrétiens au cours des temps modernes. D'autres historiens, l'école anglo-saxonne par exemple, voit dans l'organisation de la Sainte Ligue par Pie V, Sainte Ligue qui aboutit à la fameuse victoire de Lépante de l'Espagne contre la Turquie en 1571, ils y voient la main de Rome qui finance une partie de ses entreprises, octroie des indulgences aux combattants ou encore permet la levée d'impôts extraordinaires, exemple pour la guerre de Candie ou le siège de Vienne. Nous sommes donc dans la filiation directe des croisades.
Et aussi, j'ai l'impression qu'on est dans un conflit d'école d'historiens, alors.
Tout à fait, parce que les historiens modernistes, eux, ne voient pas les choses de la même manière. Préférant le terme de « guerre sainte » à celui de « croisade » pour désigner les guerres menées par les Européens contre les Turcs, ils cherchent à définir la nature des conflits avec les sultans. Détachés de toute référence au lieu saint et à une hypothétique reconquête de Jérusalem, ces conflits seraient menés au nom de Dieu, dans le but de protéger la chrétienté contre l'expansion ottomane. Ainsi, mettent-ils en exergue le basculement qui s'opère entre une croisade offensive, dirigée contre les territoires musulmans, et une guerre sainte défensive, destinée à préserver le monde chrétien de l'expansion ottomane.
Alors, dans ces conflits d'école historique, comment se situe l'auteur Géraud Poumarède?
Alors, Géraud Poumarède a voulu en savoir plus sur la nature des affrontements qui ont opposé les monarques occidentaux aux sultans. Il faut quand même souligner que si la recherche de Poumarède couvre les XVIe et XVIIe siècles, elle se situe dans une période d'affaiblissement religieux de l'Occident, aux prises avec les dissensions entre catholiques et protestants, événements qui paraissent peu compatibles avec la mise sur pied d'une guerre sainte contre les Turcs.
On en parlait d'ailleurs peut-être plus ici. Au XVIe siècle, on parlait encore d'une croisade.
On en parle, vous allez voir d'ailleurs.
Donc, on va en voir alors.
Jero Poumared montre comment la lutte contre les Turcs est un idéal partagé dans l'Occident de la première modernité. Première modernité, c'est début du XVIe. Il y eut effectivement un discours d'opposition au monde turc qui a engendré un certain type de relations internationales et des politiques militaires. L'ennemi des chrétiens est perçu comme un infidèle, puis cette image évolue, ce sera un barbare et plus tard un despote, contre lequel l'Occident, bien sûr, croit qu'il peut guerroyer en étant sûr de sa victoire.
Ça ne va pas dans le bon sens, l'image n'évolue pas vraiment bien. Et qu'en disent les papes?
Alors, les papes. Les papes lancent des appels à la mobilisation générale. Alors, on peut citer en exemple Léon X en 1517, Innocent X en 1646. Et il n'est pas rare que les exhortations de Rome fassent écho dans les cours européennes. Par exemple, Charles Quint, qui se pose en défenseur de la foi, annonce à ses vassaux du royaume de Castille en 1535 son intention de monter une expédition contre les Turcs, contre Tunis, pardon. À cette occasion, il rappelle son engagement contre le Turc, ennemi, dit-il, perpétuel de notre sainte foi catholique sur les autres fronts de la chrétienté, en Hongrie comme en mer Égée. Et même Henri IV se dit prêt à rejoindre la ligue proposée par le pape Clément VIII contre le sultan Mehmed III pour, écrit-il, le bien public de la chrétienté, cela s'entend, et pour l'exaltation de la gloire de Dieu contre les infidèles et ennemis de son saint nom. Donc, il y a toujours gloire à combattre l'infidèle, car mourir sous ses coups ouvre toujours la voie vers la sanctification. Mais plus on avance dans les siècles, plus la vision du Turc se modifie pour aboutir, comme nous avons vu, je l'ai évoqué rapidement, barbare, puis au despote évoqué précédemment. Le péril turc évolue lui aussi avec le temps, mais il continue à mobiliser les populations occidentales. Et pourtant, c'est aussi l'époque où le Turc fait rire. La vogue des turqueries, des mascarades enturbanées, les somptueuses ambassades reçues par les rois sont des signes avant-coureurs d'un affaiblissement de la menace. Et pourrait-on dire, mais ce n'est pas l'objet du livre, c'est la grande époque de Montesquieu aussi.
Oui, oui, absolument. Alors, donc cette guerre sainte, finalement, ne fait pas l'unanimité.
Et non, Poumared nous le montre très bien. L'auteur montre quelle part de rhétorique il y a derrière de nombreuses incantations. Comment les appels du pape ne sont finalement que peu entendus par les souverains de l'époque? Et que dire des guerriers qui s'élancent à l'assaut des janissaires? Ils se battent pour Dieu? Ça n'est pas du tout l'impression que l'on a en lisant l'ouvrage de Jero Poumared. Les grands affrontements ont été les sièges de Vienne, l'attaque de Malte, la bataille de Lépante en 1571, la résistance de Candie à la même époque, mais tout cela peut être vu comme une prédication eschatologique contre l'Ottoman qui va peu à peu se vider de son sens. Poumared montre que ces hommes en quête d'héroïsme cherchent à se couvrir de gloire par un commandement prestigieux et surtout une charge rémunérée. Toute l'ambiguïté est là.
Alors même la papauté qui appelle à la guerre contre l'Ottoman se montre très intéressée par le commerce.
Effectivement, puisqu'elle s'intéresse au va-et-vient des sujets du sultan qui font commerce et viennent faire des emplettes sur ses territoires. Alors évidemment, nous sommes très loin de la geste glorieuse de la croisade et Poumared éclaire son propos d'une succession de faits puisés dans les cours européennes auprès des grands capitaines qui dirigent leurs armées ou des ordres militaires spécialisés dans la lutte contre les musulmans. Mieux, il s'est penché aussi sur le sort de la piétaille envoyée à la guerre. Alors, la République de Venise peut nous donner un exemple parmi tant d'autres. Elle pratique le mercenariat. À la tête des troupes engagées par la Sérénissime, on découvre le duc César de Vendôme, bâtard légitimé d'Henri IV. On y découvre aussi Maximilien Guillaume, fils du duc Ernst Auguste de Hanovre, et Philippe de Savoie, frère du fameux prince Eugène. Pour tous ces cadets de famille, la guerre turque leur offre l'occasion d'exercer des fonctions militaires prestigieuses et de recevoir une rémunération importante.
Béni soit la guerre et la guerre sainte.
Tout à fait. Alors l'auteur cite un certain nombre de cas, dont les princes de Guise, qui sont, il y a des grands moments d'anthologie dans les pages qu'il nous propose. Alors si la guerre turque fait recette chez les princes, elle attire aussi des familles entières de traîneurs de sabre qui voit en elle le moyen de gagner sa vie. Mais il y a aussi l'envers du décor. Sur les champs de bataille, les souffrances et les brutalités que supportent les fantassins des armées d'Orient ne sauraient se justifier par le caractère pieux qui donne les aristocrates. Combien de familles décapitées vivent dans le dénuement le plus total ? Les archives de Venise sont pleines de ces appels à l'aide de femmes sans le sou. Enfin, il y a aussi les cas de désertion. Il arrive qu'un régiment, ne recevant plus sa solde de l'empereur, par exemple, en 1600, c'est un régiment que l'on appelle régiment français, tient un conseil général dans la ville où il est en garnison et les hommes décident de prendre le parti des Turcs. Ils changent donc de camp. Ça se passe d'ailleurs aux environs de Belgrade dans la fameuse guerre des Turcs qui avait envahi l'actuelle Yougoslavie. Le gouverneur ottoman, au courant de l'affaire, fait des propositions alléchantes. Accord est passé par un document signé de 14 articles, leur assurant notamment la possibilité de pratiquer leur religion. Ils sont européens, ils vivent à l'européenne et s'installent à Constantinople. Ils font merveille dans les combats contre leurs ex-coreligionnaires. Et parmi ce régiment qui comportait à l'époque 3000 personnes, sur les 3000, 1500 ont changé de camp. Et sur ces 1500, seulement 40 d'entre eux voudront embrasser la religion des Turcs.
Voilà des choses que l'on ignore généralement et que cet auteur, Géraud Poumarède, donc dans son livre « Pour en finir avec la croisade » nous fait découvrir.
Tout à fait. Alors on voit bien que le Turc ne fait plus recette au XVIIe siècle et c'est parce que l'Europe des temps modernes semble plus préoccupée par les progrès du protestantisme. Et la lutte récurrente entre les rois de France et les Habsbourg d'Autriche et d'Espagne ne permet pas de mener une initiative collective contre les Ottomans. Ces désaccords limitent les actions politiques aux villes et aux États frontaliers, comme Venise ou l'Autriche. On assiste donc au déclin de la croisade au profit des relations diplomatiques. Le rapprochement de François Ier et du sultan Souleyman en 1520 en est le plus bel exemple.
Je l'attendais, celle-là, tout de même.
Pourtant, pour les gouvernants du XVIIe siècle, la Turquie reste un pays à part, étranger aux codes et aux normes qu'appliquent les principales cours d'Europe. C'est à méditer pour l'avenir.
Voilà. C'était donc l'ouvrage qu'Anne Muratori Philippe conseille à aux auditeurs de Canal Académie dans l'émission Au fil des pages. Cet ouvrage, vous allez nous en rappeler les principales références.
Alors, ce livre de Géraud Poumarède s'intitule « Pour en finir avec la croisade, mythes et réalités de la lutte contre les Turcs au XVIe et XVIIe siècle ». Il est paru au Neugordien, aux Presses universitaires de France. Il fait près de 700 pages et il est une somme pour toute l'histoire de la Méditerranée et je pense que tous les chercheurs y trouveront
profit. Merci Anne Muratori Philippe et à bientôt pour une autre émission Au fil des pages. Thank you.